VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Diriec en direct Washington, mercredi 9 mai 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, en Centrafrique, l'appel à la journée ville morte a été peu suivi à Bangui. Nouvelle épidémie d'Ebola en RDC, on compte 21 morts.
Les gens sont en train de mourir. Donc on a déployé les équipes samedi passé. Ils sont revenus dans la soirée, la nuit. Donc le dimanche, on a eu des éléments. Donc ils ont amené des prélèvements.
Au Burkina Faso, le procès du putsch de septembre 2015 a été à nouveau renvoyé au 25 mai. L'Europe s'engage à tout faire pour sauver l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Le président Donald Trump annonce la libération des trois Américains qui étaient détenus par la Corée du Nord. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. En République centrafricaine, faible mobilisation ce mercredi autour du mot d'ordre de la société civile appelant à une journée ville morte. Les activités se sont déroulées normalement dans plusieurs secteurs de la capitale. Sur place à Bangui, correspondance de Freeman Sipila.
Contrairement à ce que la société civile considère d'une réussite la semaine dernière, ce nouvel appel à l'observation d'une journée ville morte n'a pas eu un écho favorable auprès de la population. Au centre-ville, des banques, des magasins, des marchés, des services de l'administration publique et privée ont ouvert leurs portes et la circulation était fluide sur les avenues. Le seul secteur paralysé aujourd'hui est l'éducation, car la quasi-totalité des établissements scolaires et universitaires étaient restés fermés. Le groupe de travail de la société civile a appelé à l'observation d'une nouvelle journée ville morte ce mercredi pour protester contre la persistance de la violence et l'incapacité des autorités et de la MINUSCA à protéger la population. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le procès du coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso a repris ce matin après plus d'un mois de suspension, mais il a aussitôt été renvoyé au 25 mai prochain. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont les principaux accusés. Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, pour Le Point.
Le procès a été reporté au 25 mai prochain à la demande des avocats de la défense, nouvellement commis d'office. Début avril, des avocats d'une douzaine d'inculpés s'étaient déportés du dossier. Les nouveaux avocats pour assister ces inculpés veulent du temps pour prendre connaissance des pièces de la procédure. Maître Arnaud Sampebré fait partie de ces avocats de la défense.
Nous estimons que le délai qui nous a accordé pour prendre connaissance du dossier n'est pas suffisant, mais ne doutons pas un seul instant que à cette audience, il y aura forcément un autre renvoi. Il y a eu un groupe de 8 accusés qui n'avaient pas de conseil.
Oui, un autre renvoi est encore possible, le 25, car à l'audience de ce mercredi, des avocats se sont encore déportés, laissant près d'une dizaine d'inculpés sans conseil. Et il y a eu aussi 3 demandes de liberté provisoire. 2 ont été rejetées. Une renvoyée à la prochaine audience le 25 mai. Le tribunal s'est montré incompétent à la demande de sortie du territoire pour raison de santé du journaliste Adama Ouédraogo, également inculpé. Le coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso a fait près d'une quinzaine de morts et au moins 200 blessés. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé et plus de 80 personnes sont les présumés inculpés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, le Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga a effectué une courte visite à Ménaka, près de la frontière avec le Niger. À la fin avril, une soixantaine de Touaregs, dont des enfants et des personnes âgées, ont été tués dans des campements au sud de Ménaka, une zone où opèrent des djihadistes du groupe État islamique dans le Grand Sahara. Des habitants de la région considèrent ces tueries comme une vengeance des djihadistes aux lourdes pertes que leur ont récemment infligées la force française Barkhane et l'armée malienne, souvent appuyée par les groupes d'autodéfense Touareg, IGAD et alliés. Épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. On compte déjà 21 morts. L'Organisation mondiale de la santé a débloqué 1 million de dollars pour stopper la propagation. Médecins sans frontières affirme qu'une équipe est déjà sur place depuis samedi. L'épicentre de la maladie se trouve autour de Bikoro, près de la frontière avec le Congo-Brazzaville. Les avocats de l'opposant politique et homme d'affaires béninois Sébastien Adjavon ont demandé la protection de la Cour africaine des droits de l'homme à Arusha en Tanzanie. Ils réclament plus de 800 millions d'euros de dommages et intérêts à l'État béninois pour atteinte à son droit à la liberté, à son droit à la propriété, à son droit à un procès équitable ainsi qu'à son droit à la présomption d'innocence. La France a suspendu la délivrance des visas aux ressortissants comoriens, mesure prise en raison du refus de Moroni de laisser entrer sur leur territoire les citoyens comoriens refoulés de Mayotte. Les autorités françaises ont multiplié dernièrement les expulsions vers leur île d'origine de comoriens sans papier arrivés sur Mayotte. Mozambique, le président Filipe Nyusi s'est engagé à poursuivre les discussions de paix avec le principal parti d'opposition, la RENAMO, devant des milliers de personnes réunies pour le dernier hommage au chef de l'ex-guérilla, Afonso Dhlakama. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a demandé au Conseil de sécurité de l'aider pour faire arrêter 3 fuyards en Libye, dont un commandant sous les ordres du maréchal Khalifa Haftar et Saif al-Islam Kadhafi, le fils de Muammar Kadhafi. Fatou Bensouda a indiqué ne pas savoir s'il était en détention ou non.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les pays européens signataires de l'accord de Genève sur le nucléaire iranien ne veulent pas baisser les pays après le retrait des États-Unis. La décision annoncée hier par Donald Trump continue de susciter des réactions. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le président iranien Hassan Rouhani a accusé son homologue Donald Trump de pratiquer une guerre psychologique. L'ayatollah Ali Khamenei a exigé des Européens des garanties pour que son pays reste dans l'accord. Dans un communiqué commun, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May se disent déterminés à assurer la mise en œuvre de l'accord. Ils disent vouloir maintenir les avantages économiques pour la population iranienne. Moscou a fait part de sa déception et de son inquiétude. La Turquie dit craindre de nouveaux conflits tandis que la Syrie a réaffirmé sa solidarité à Téhéran. C'est une erreur grave selon l'ex-président Barack Obama. En revanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié de courageuse la décision du président Trump, tout comme le Royaume d'Arabie Saoudite, grand rival de l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que l'Iran remplit ses engagements en matière de nucléaire, conformément à l'accord de 2015.
Et Syrie, au moins 4 personnes ont été tuées et 24 autres blessées dans des tirs de roquettes sur 2 quartiers de Damas. Le chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, se trouve en territoire syrien, le long de la frontière avec l'Irak. C'est ce qu'a affirmé un responsable irakien qui a également annoncé que les forces irakiennes étaient parvenues à capturer 5 des plus importants commandants du groupe. Les rangs de l'État islamique ont fortement diminué, de même que ses financements, après qu'il a perdu l'ensemble des raffineries qu'il contrôlait, souligne cette source. Par ailleurs, l'espace aérien et les frontières d'Irak seront fermés pendant 24 heures de vendredi minuit à samedi minuit à l'occasion des élections législatives. Afghanistan, au moins 5 personnes ont été tuées dans des attaques apparemment coordonnées contre 2 commissariats de police à Kaboul. Les talibans et le groupe État islamique ont chacun de leur côté revendiqué les attentats, mais les services de renseignement afghans les ont attribués au réseau Haqqani, allié des talibans, et au groupe insurgé pakistanais Lashkar-e-Taliba. Le Pakistan a condamné les attentats. Le président Donald Trump a annoncé aujourd'hui la libération de 3 Américains qui étaient détenus par la Corée du Nord. Le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui était à Pyongyang, les ramène aux États-Unis. Le point avec Marie Benson.
Le président Donald Trump a déclaré dans un tweet que les 3 Américains qui étaient détenus en Corée du Nord ont été libérés. Ils reviennent aux États-Unis en compagnie du secrétaire d'État Mike Pompeo, qui a été reçu hier à Pyongyang. La date et le lieu du prochain sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un ont enfin été fixés. Les 3 personnes libérées arrivent demain matin à Washington. Kim Hak-song travaillait pour l'Université des sciences et de la technologie de Pyongyang lors de son arrestation en mai 2017. Kim Sang-duk, aussi connu sous le nom de Tony Kim, travaillaient pour la même université. Il a été arrêté en avril 2017 à l'aéroport de Pyongyang alors qu'il rentrait chez lui. En avril 2016, Kim Dong-chul a été accusé de subversion et espionnage. Cet homme d'affaires et pasteur âgé d'une soixantaine d'années a été condamné à 10 ans de travaux forcés.
La CIA ne reprendra pas le programme d'interrogatoire poussé introduit après les attentats du 11 septembre et assimilé à de la torture. C'est ce qu'a assuré Gina Haspel, choisie pour diriger la CIA devant le Congrès. Gina Haspel a été impliquée dans des interrogatoires où des militants présumés d'Al-Qaïda avaient été torturés en 2002. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
La BAD et la Banque Centrale Populaire du Maroc vont investir 100 millions de dollars pour développer le commerce intra-africain. L'accord de financement permettrait de booster les relations commerciales entre les entreprises marocaines et d'autres entreprises africaines. Plusieurs secteurs, notamment l'eau, les infrastructures et l'énergie, seront privilégiés. Le commerce intra-africain dans les échanges commerciaux restait l'une des plus faibles au monde avec 16% en moyenne. La BAD veut investir jusqu'à 700 millions de dollars pour renforcer ses flux commerciaux. En mars dernier, 44 pays ont signé l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine pour créer un marché unique. Le gouvernement du Nigeria envisage l'émission de 70 millions de cartes d'identité pour faciliter l'accès de ses citoyens aux services financiers. Ce programme permettra au gouvernement d'augmenter les données du fichier d'identification nationale et prendra en compte environ 30 millions de Nigériens. Le programme va aussi améliorer l'efficacité des services, notamment les impôts et l'assurance maladie. Ethiopian Airlines négocie des accords de partenariat pour le lancement de compagnies aériennes dans 5 pays africains et prévoit de porter le nombre de ses appareils à 150 d'ici 2025. La compagnie veut s'implanter au Mozambique, au Tchad, à Djibouti, en Guinée équatoriale et en Guinée. Elle envisage de passer des commandes pour 13 nouveaux Boeing 787 et si Airbus a 350 avant la fin de l'année en cours.
Et on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
15e tour cycliste du Bénin, encore un trio burkinabé pour la seconde étape.
Effectivement, une fois encore, le Burkina Faso s'est illustré sur ce Tour du Bénin, la seconde étape ce mercredi entre Djogou et Parakou, 133 km, remportée par Souleymane Koné. Après son échappée à 60 km de Parakou, Koné a gardé le même rythme jusqu'à l'arrivée en 3h17. Koné devance ses compatriotes Abdulaziz Nikema, deuxième, Safo Bikenga, troisième, endosse au passage le maillot jaune de leader. A noter que le premier béninois de la course, Bashiki, a terminé à la sixième place de l'étape. La troisième étape, c'est ce jeudi entre Kilibo et Dassazoumbé, d'une distance de 135 km.
Gros intérêt autour de Yaya Touré en Angleterre.
En fin de contrat avec Manchester City, le milieu de terrain international ivoirien Yaya Touré pourrait rester en Première Ligue. C'est du moins ce que croit savoir le Daily Mirror. Le journal affirme que l'ancien joueur de Monaco et de Barcelone susciterait l'intérêt de trois écuries anglaises, Everton, Burnley et Wolverhampton, qui sera de retour parmi l'élite la saison prochaine.
Sanctions en Espagne.
L'international espagnol Sergi Roberto, exclu dimanche dans le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, eh bien il a été suspendu 4 matchs pour son agression sur le défenseur madrilène Marcelo. Dans sa décision, le comité de compétition de la Fédération espagnole a considéré que le geste du milieu de terrain était constitutif d'une agression n'ayant pas entraîné de blessure. On rappelle qu'il ne reste que 3 matchs en Liga pour le Barça, déjà champion. Le prochain, ce sera contre Villarreal en match en retard de la 34e journée.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
Stephen Curry n'aura pas tremblé pour amener les Golden State Warriors à vaincre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Une victoire 113 à 104 grâce notamment à 28 points de Stephen Curry et 24 de Kevin Durant. Les Warriors qui rencontreront en finale de la conférence Ouest Houston. Le choc tant attendu aura lieu puisque Houston a éliminer les Utah Jazz, une 4e victoire sur les 5 matchs, 112 à 102 hier soir.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Que va-t-il donc se passer après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien ? Pour Walid Fares, ancien conseiller aux affaires étrangères du président Trump, les États-Unis vont remobiliser dans les mois à venir leurs partenaires pour une renégociation de l'accord. Walid Fares est interrogé par Baguessicoura.
La position de Trump est de générer, de créer des nouvelles données qui vont obliger les partenaires internationaux à revenir sur la table de négociation, pas aller vers une confrontation, mais de produire un document plus équilibré.
En Europe et aussi en Iran, on s'active à ce que l'accord soit maintenu. Comment vous comptez convaincre les Européens?
L'Iran, bien sûr, le commandement iranien va continuer à vouloir profiter de l'accord parce que c'est surtout à travers ce traité que l'Iran est en train de pouvoir faire rentrer des sommes financières et du cash, comme on dit. Les Européens, eux, savent que les États-Unis s'opposent au traité initial, mais savent aussi que les partenaires arabes des États-Unis aussi sont gênés. Donc les Européens, maintenant, ils vont continuer à faire leurs obligations financières en ce qui concerne l'Iran. Probablement, au bout de 6 mois, il va y avoir de nouvelles tractations, de nouvelles négociations. Parce que, en fin de compte, ce traité n'était pas à propos de sécurité, mais à propos d'arrangements financiers. La réalité sur le terrain. Parce que la question nucléaire elle-même, personne ne s'y oppose. Que l'Iran ne fasse plus de bombes, c'est quelque chose où il y a beaucoup de consensus. Mais maintenant, il faut trouver donc un nouveau équilibre entre ces trois parties, l'Europe, les États-Unis, les pays du Proche-Orient, pour pouvoir revenir sur la table. La Russie, je pense, va rester là où elle était, donc faire du business avec l'Iran, il n'y aura pas de problème, y compris la Chine.
Il y a des tensions à plusieurs niveaux avec les partenaires européens, d'abord au niveau de l'OTAN, ensuite au niveau commercial avec les tarifs sur l'acier. Et maintenant, sur l'accord nucléaire, qu'est-ce que vous dites à ceux qui accusent Donald Trump d'avoir saboté les relations transatlantiques?
C'est son opposition. Ce n'est pas des partis neutres. Ils l'ont toujours fait depuis la campagne, je me rappelle très bien. Maintenant, bien sûr, l'accord iranien est autre chose, parce qu'il y a des intérêts financiers. Les banques européennes, les compagnies européennes ont un intérêt à sauvegarder. Vraiment, s'il leur est offert une autre voie de pouvoir accommoder, ils le feront. Mais je pense que c'est un peu tôt maintenant. L'Amérique va se réorganiser, surtout d'une façon au niveau interne avec le Congrès. On a des élections qui viennent dans quelques mois. Et après cela, je pense qu'il va y avoir un sommet euro-américain et arabe pour ramener les choses dans le bon sens au Proche-Orient.
Walid Fares, ancien conseiller aux affaires étrangères du président Trump.
Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien. Un accord arraché en 2015 après 2 années difficiles de négociations et de nombreux rebondissements. Que signifie cette décision majeure prise par le président américain ? Cette décision ouvre-t-elle une période d'incertitude dans la région du Proche-Orient ? L'Iran va-t-il accélérer son programme nucléaire ? Comment réagit la communauté internationale ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin.
Au Cameroun, le gouvernement appelle les populations à dénoncer les actes de corruption et les fonctionnaires fictifs. Elles peuvent appeler des numéros verts au ministère des Finances et à la Commission nationale anticorruption. L'opération lancée depuis le début du mois dernier suscite un engouement populaire de Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Juntap.
Allô, bonjour. Linvert Konak.
Dans une salle de la Commission nationale anticorruption, le téléphone ne cesse de sonner. C'est ici que sont enregistrés au numéro vert 1517 les appels des Camerounais qui dénoncent les actes de corruption. Sous anonymat, deux agents de la Commission nationale anticorruption dressent le bilan des deux premières semaines de mise en service de ce numéro vert.
Nous sommes à en moins 100 appels par jour venant de toutes les parties du territoire national et des appels qui dénoncent des faits de corruption, des infractions assimilées à la corruption.
D'une manière générale, nous recevons des appels de personnes qui dénoncent pour la plupart la corruption dans les services publics ou des officiels corrompus. Au-delà de cette catégorie d'appelants, nous avons des gens qui dénoncent la corruption dans les marchés, des pratiques de corruption instaurées par des responsables de ces marchés.
L'initiative d'un numéro vert à la Commission nationale anticorruption a coïncidé avec celle du nouveau ministre des Finances. Ce dernier a invité les citoyens à dénoncer des fonctionnaires fictifs en vue d'assainir le fichier solde de l'État du Cameroun. Cyril Edouello, directeur général du budget au ministère des Finances.
Vous pouvez venir donner l'information que telle personne, je le connais, il n'est pas au poste, mais il perçoit la solde. Ou bien telle personne est décédée, mais ses ayants droit perçoivent frauduleusement sa solde. Ça peut être aussi certains qui camouflent ou bien qui perçoivent les salaires d'autres personnes.
L'appel à dénonciation des corrompus, corrupteurs et fonctionnaires fictifs au Cameroun est cependant diversement apprécié à Yaoundé.
Il faudrait impérativement dénoncer ce genre d'actes de corruption qui plongent notre pays davantage dans la pauvreté, dans le chômage.
Je suis prêt à le faire n'importe quel moment. Il faut que je dénonce à ceux qui ne travaillent pas.
Moi, je ne suis pas prêt à dénoncer un fonctionnaire fictif. C'est la mascarade du gouvernement. Ce sont eux qui octroient le matricule à ceux-là qui restent au quartier et mangent l'argent de l'État.
Et pour les cas de corruption, vous appelez quand même au 15-17.
Je ne suis pas d'administration pour appeler.
À la Commission nationale anticorruption, les premières mesures ont d'ores et déjà été prises après dénonciation de quelques cas de corruption, comme l'explique un cadre de la CONAC.
Quand c'est les cas de corruption qui se passent, il y a ces cas d'intervention qui peut avoir lieu si c'est dans les environs de Yaoundé. Mais si ça se passe hors de Yaoundé, on est en contact direct avec des inspecteurs régionaux de service. Et puis, il y a d'autres dénonciations qui sont tellement spécifiques qu'on transmet directement à certaines administrations. Pour ce genre de cas, on est en train de le recenser pour transmettre au ministère de la Finance sur ce qui a un recensement de fonctionnaires en cours.
Après dénonciation, quelques fonctionnaires du ministère des Finances sont depuis quelques jours en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Emmanuel Jules Yaoundé, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités congolaises et leurs partenaires organisent aujourd'hui la réponse face à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui s'est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo et qui a déjà fait 17 morts. Eddie Sango a joint José Monzembela, épidémiologiste de la province de l'Équateur.
Le village Kokoimpenge, c'est à 45 km du bureau central. C'est là que se vit le phénomène de la maladie à virus Ebola. Nous sommes en Bandaka, chef de l'Équateur. Bikoro, c'est l'une des zones centrales de la province. Les gens sont en train de mourir. Donc, on a déployé les équipes samedi passé. Ils sont revenus dans la soirée, la nuit. Donc, le dimanche, on a eu des éléments. Donc, ils ont amené des prélèvements, 5 échantillons prélevés. On a trouvé 3 au centre de santé de Kokoimpenge dans ce village et 2 malades aussi à l'hôpital général de l'Ouest de Bikoro. Donc les 5 échantillons de malades trouvés actifs ont été envoyés à l'INRB et parmi lesquels 2 résultats sont revenus positifs. Donc à l'heure actuelle, on est à pied d'œuvre. Il y a une équipe déjà des experts sur terrain depuis ce matin. Il y a aussi un appui du niveau central, une délégation arrivée, donc du ministère de la Santé avec le partenaire. On est en train de travailler pour renforcer la lutte contre ce fléau, donc la maladie à virus Ebola.
Est-ce que la population est informée de ce qu'il faut faire quand on voit quelqu'un présentant des signes de cette maladie?
La sensibilisation doit être continue. Je pense autrefois, je pense que ça fait des années. Et donc, ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle. La première fois, bon, ça, il faut remonter dans l'historique quand la province était encore une depuis longtemps. Alors, maintenant, là, que ce phénomène est survenu, donc tout est en marche pour la réponse en rapport avec la prise en charge, la communication à la population pour prendre des précautions pour ne pas être atteinte par la maladie. Donc le premier phénomène, c'était à Yambuku, donc à plus de 600 km d'ici. Le dernier phénomène, c'est à la Chuapa maintenant comme province, à plus de 500 km aussi d'ici. Donc ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle.
On sait que la population de ces côtés vit entre autres de la chasse et les animaux sont les vecteurs porteurs de ces virus. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le comportement à avoir quand ils vont en chasse par exemple?
Ce qu'il faut savoir, que nous sommes dans la forêt équatoriale, il y a le gibier, il y a tout cet écosystème qui est favorable à l'éclosion de cette maladie. Ce que nous devons faire, c'est tellement renforcer la population, la communication, la sensibilisation à la population pour prendre des dispositions qui s'imposent. Je pense qu'avec la déclaration des ministres de Gladys, donc toutes les dispositions sont prises pour mettre fin à la maladie.
C'était José Monzembela, médecin épidémiologiste dans la province de l'Équateur.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Pas une mince affaire pour les femmes de se faire un nom sur la scène du hip-hop dans un milieu essentiellement masculin. Pourtant, la chanteuse Fenoz, auteure-compositrice burkinabé, militante anti-MGF, a créé son propre label. Dans cet entretien avec Nathalie Barge, Fenoz décrit les péripéties autour de son troisième album « Baby ».
Cet album a voyagé du Canada, au Mali, Bamako, la France, l'Allemagne, passant par des producteurs d'instrumentales qui sont au Nigeria, aux États-Unis, Blinkstef au Canada. Et maintenant, pour les concerts, comment ça se passe, vu que c'est difficile de se déplacer avec toute une band? Donc, on fait une sorte de casting et on envoie, au fait, la musique déjà, là, quand on trouve les personnes. Et même, je dirais, en anecdote, là, c'est tellement chaud quand j'enregistrais mon album. À la dernière minute, il y avait quelques problèmes avec des arrangeurs, parce que c'est toujours le monde de la musique. C'est un combat, là. Et ils oublient que ben, moi, je suis une femme, mais je suis une guerrière. Quoi. Je me détermine comme étant une ninja. Alors, la ninja, elle a fait « Bon, d'accord. » Comme c'est comme ça, et ben, à la dernière minute, j'ai acheté un ordi avec tout un programme de home studio et j'ai enregistré 3 chansons chez moi. Et après que j'ai tout envoyé au Canada, à Montréal, à Blinkstef, pour qu'ils puissent faire le mixage. Ben, imaginez-vous, avec la différence horaire, les 6 heures de temps, mais moi, j'étais comme une zombie. Dans la journée, en Allemagne, je travaille, je fais ça. Et la nuit, maintenant, j'étais au taquet avec Blinkstef là au Canada et puis pour régler tout le mixage. Mais c'était...
Vous êtes hyper active. Un petit mot sur l'excision.
En fait, l'excision, moi, toute ma vie, tant que je vis, je serai toujours là pour donner mon mot. Parce que en tant déjà que victime de l'excision, et je tiens toujours à le rappeler que ce ne sont pas mes parents qui m'ont fait ça, mais des personnes de la famille qui ont jugé bon de me faire subir ce sort. Et moi, je suis complètement opposé à toute forme de pratique de l'excision parce que c'est nuire à la vie de la femme. C'est détruire son monde. C'est la faire sombrer vraiment dans une dépression pas possible. Toutes les victimes de l'excision en souffrent. Et beaucoup ne parlent pas parce que il y a cette peur-là, parce qu'on est une fois victime par ce mal et une deuxième fois victime de la société parce qu'on a peur, en fait, de s'afficher avec cela. Et troisièmement, ben, la société ne nous rend pas ça bien. Ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça. Et je voudrais aussi recommander à toutes les victimes de l'excision de prendre aussi cette démarche, quand c'est possible, d'aller faire la reconstruction du clitoris, parce que moi, je l'ai fait. Et franchement, je me suis sentie renaître. C'est vrai que ça ne fait pas oublier ce qu'on a subi, parce que c'est inoubliable, mais au moins, on se sent vraiment renaître, on se sent différente. On se dit, ah, c'est cela qu'on m'en va enlever. C'est vrai que j'arrive pas au même degré que les autres, mais au moins, je sais ce que c'est maintenant, et ça fait avancer.
Voilà, c'était Fenoz, actuellement en tournée en Amérique. Rendez-vous samedi à 19h05, temps universel sur VO Afrique pour une édition spéciale, Le Monde au Féminin, avec la chanteuse burkinabé. On écoute un extrait de sa musique.
Je me sens dévouée, ton amour dans tes bras, tu me l'as avoué. Ton regard me dirige, toi, t'as l'amour dans tes bras, je me vois tous les jours. Mon arrêt, mon âme, mon gué, mon fain et mon coin. Coup, mon fain et la bani. Au toi que colle, mon labani, un coué, ou quoi, mon cogne. Malgré mon noir sort, je rougis.
Voilà, Fenoz, le titre c'est Djarabi.
J'ai mon cœur près de toi, je n'ai plus peur.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Joselle Morissin, présentation Morgane Guiriec, ainsi va le monde aujourd'hui. Get the girl.